Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le 5 juillet prochain sort en kiosque un numéro spécial du magazine Pèlerin intitulé Le Mont-Saint-Michel vu du ciel, avec un grand nombre de photos inédites de la merveille de l'Occident, réalisées par Stéphane Compoint, que Franck Ferrand a invité aujourd'hui sur Europe 1, ainsi que l'écrivain Patrice de Plainquette. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Patrice de Plainquette est l'auteur des romans du Mont-Saint-Michel dans la célèbre collection de Vladimir Fedorovski aux éditions du Rocher, bien nommé en l'occurrence. Il redresse dans ce livre pas mal d'idées fausses à propos du plus célèbre des grands sites du patrimoine français. Ça m'intéressait de recueillir aujourd'hui les points de vue très neufs de ces deux grands observateurs du Mont.
À Mont-Saint-Michel, où se pressent chaque année plus de 3 millions de personnes.
Oui, et ça dure depuis si longtemps. Vous imaginez quel fascinant pouvoir d'attraction, ô combien justifié du reste. Nous avons tous plus ou moins des souvenirs du Mont-Saint-Michel. Je me rappelle notamment avoir arpenté un matin de 1er janvier ces venelles, ces escaliers, toutes ces rues tortueuses, tout cela parfaitement désert. C'est inoubliable.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Puisque nous sommes dans les souvenirs personnels, ça sent la fin de saison, tout ça, je me rappelle aussi avoir essayé, je dis bien essayé, un jour de découvrir le Mont-Saint-Michel. Au petit matin, vous savez, quand le soleil rasant est censé éclairer la merveille d'une flambée rougeâtre. Alors je me suis levé à 3h30 du matin, on était en plein été. Alors en arrivant au bord, en arrivant sur la côte, on devinait très bien la masse sombre du mont, dans une nuit du reste sans lune. La brume s'élevait, tout ça était magnifique, et puis elle s'élevait tellement que peu à peu le mont a été englouti dans un brouillard qui est devenu un brouillard très épais, et au moment où le soleil s'élevait, eh bien on ne voyait tout simplement rien du tout. Alors on a quand même pris la digue, on s'est avancé pour entrer sur le Mont-Saint-Michel, et là, ça c'est une vision que je n'oublierai pas. D'un seul coup, au milieu, imaginez un immense panorama tout blanc, enfin pas de panorama du tout d'ailleurs, on marchait dans le blanc, dans le coton, et puis d'un seul coup, apparaît, éclairé par un rayon de soleil, l'archange doré, cet archange qui a été restauré en 1987 et dont nous allons reparler tout à l'heure. C'est une vision quasiment irréelle, c'était très beau. Et puis la brume s'est dissipée peu à peu, et là vous vous retrouvez avec ça sous les yeux, si je puis dire, ces remparts magnifiques, cette ville, cette roche et puis l'extraordinaire architecture d'un lieu comme il n'en existe pas d'autre. Guy de Maupassant décrivait l'abbaye escarpée, poussée là-bas, loin de terre, disait-il, comme un manoir fantastique, stupéfiante comme un palais de rêve, invraisemblablement étrange et belle. C'est en 708 de notre ère, on remonte là très très loin, nous remontons dans le haut Moyen-Âge, c'est en 708 que l'évêque d'Avranches, Aubert, a fait bâtir une chapelle sur un rocher qui se trouvait dans la partie ouest du mont. Il a eu une apparition, une première apparition au Aubert, une apparition de l'archange Saint-Michel bien entendu, qui lui donne l'ordre de construire un édifice où seront loués les mérites de l'archange. Il est un peu surpris par ce qui lui est arrivé peut-être, il attend, il n'obéit pas au Aubert. Une deuxième apparition le laisse toujours dans une forme de doute et de flottement. Et c'est à la troisième seulement, alors là cette fois il reçoit un coup sur la tête, il a même carrément un trou dans le crâne, mais un trou qu'il ne l'a pas tué, c'est alors seulement qu'il décide d'édifier un sanctuaire sur ce qu'on appelle à l'époque le mont Tombe. On est donc en baie d'Avranches, un sanctuaire à l'emplacement d'un ancien sanctuaire païen. On est à cette époque, vous savez, où l'Église passe son temps à recycler, si j'ose employer ce terme, les anciens lieux religieux des très anciennes religions qui étaient là depuis la nuit des temps. Alors, ce sanctuaire est bâti d'abord sur le modèle du sanctuaire de Saint-Michel au Mont-Gargan, en Italie, avec une crypte circulaire. Et puis, peu à peu, eh bien, il fait l'objet d'un véritable culte. On voit se développer les pèlerinages avec une vénération qui devient une vénération mystique en cet endroit. Un lieu de pèlerinage qui est surtout fréquenté, évidemment, lors de la fête de l'archange Saint-Michel, le 29 septembre. Par la suite, le mont, devenu donc Mont Saint-Michel, est rattaché à la Normandie en même temps que le diocèse d'Avranches dont il dépend. Ce Mont Saint-Michel fait partie donc de du Grand-Duché de Normandie. Hein. Il fait l'objet de soins particuliers de la part du duc de Normandie, Richard Ier, des moines venus de Saint-Vendry. Donc de l'abbaye de Saint-Vendry, pas loin de Rouen, viennent fonder sur place une abbaye bénédictine et ce sont ces moines qui vont doter le mont d'une abbaye romane. Aujourd'hui encore, dans l'église, vous avez une partie 4 travées sur 7, parce qu'il y a eu un grand incendie en 1776 qui a détruit 3 travées. Vous avez encore toute la partie romane, bien entendu. L'abbaye se superpose, évidemment. Il faut s'adapter à ces lieux qui sont une sorte de rocher, bien entendu. Donc elle se superpose sur 3 niveaux. Au milieu du XIIe siècle, on peut dire qu'elle connaît son apogée. C'est l'apogée du mont avec l'abbé Robert de Torigny, qui est très proche du roi d'Angleterre. Seulement, très vite, le roi de France va vouloir récupérer l'abbaye. Philippe Auguste entend annexer la Normandie à sa couronne. En 1204, il monte une armée et avec les Bretons, il vient mettre le siège, il vient enflammer le Mont Saint-Michel. Il y a en tout, j'ai compté ça ce matin, il y a eu 11 incendies, enfin me semble-t-il, d'après tout ce que j'ai, 11 incendies sur le Mont Saint-Michel. La Normandie, une fois rattachée à la couronne de France, le roi se doit de dédommager les moines et c'est ainsi que va naître l'extraordinaire construction que nous connaissons, cette espèce d'invraisemblable château religieux gothique sur lequel nous revenons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck qui nous relate aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire du Mont Saint-Michel.
Le Mont Saint-Michel que vous connaissez bien, vous, Julia.
Je salue ma famille du côté d'Avranches, effectivement.
On va dire un mot d'Avranches tout à l'heure et de l'extraordinaire exposition des manuscrits, exposition tournante, hein, des manuscrits du Mont Saint-Michel au scriptorial qui a été réalisé il y a quelques années maintenant. Le temps passe. Alors, imaginez cette architecture gothique absolument invraisemblable, merveille qui est achevée donc en 1228, qui s'étage encore une fois sur 3 strates, en bas l'aumônerie, le cellier, etc. Quand on voit la coupe, et puis la salle des chevaliers, la salle des hôtes, au-dessus encore le cloître, le réfectoire, c'est tout simplement extraordinaire. Le cloître qui est littéralement suspendu entre terre et ciel, ou devrais-je dire entre ciel et mer, à 77 mètres au-dessus du niveau de la mer. On se demande comment tout ça a pu être construit. Il a fallu une maîtrise de l'architecture tout à fait extraordinaire. L'architecture du mont lui-même va subir évidemment la pression militaire de cette époque, surtout avec l'arrivée de la guerre de Cent Ans. Alors on raconte souvent à propos de cette guerre de Cent Ans l'épisode, vous savez, d'un siège interminable de plus de 30 années avec tous ces chevaliers qui font le siège du Mont Saint-Michel. En fait, il semblerait, nous dit Patrice de Plainquette, que ça n'ait pas été tout à fait aussi simple. On verra tout à l'heure ce qu'il a à nous dire à ce propos. L'ultime attaque des Anglais a lieu, ça c'est certain, en 1434, c'est-à-dire 15 ans avant la fin définitive de la guerre de Cent Ans. La ville, à cette époque, est bien à l'abri derrière ses remparts et par la suite, elle va se remplir, parce qu'il faut l'imaginer, beaucoup moins urbanisée que le mont ne l'est devenu, évidemment, par la suite. Il faut tout reconstruire. Alors, on va reconstruire grâce aux dons que font les pèlerins, qu'on appelle les miquelots. Vous savez, ces pèlerins qui viennent sur le Mont Saint-Michel, qui sont de plus en plus nombreux, et puis grâce à la bienveillance de la monarchie française, bien entendu. Il faut savoir que Saint-Louis a effectué 2 pèlerinages sur place. Pour vous donner quelques exemples, Jeanne d'Arc a vu Saint-Michel dans ses visions, donc ça a joué un rôle, tout ça, bien entendu. Louis XI est venu, et puis on connaît bien sûr en 1518 et 1532 les 2 pèlerinages de François Ier. C'est au cours d'un de ses voyages que François Ier va rencontrer notamment Jacques Cartier. Enfin bon, ça nous entraînerait peut-être un peu loin tout ça. Saint-Michel est le symbole du bien qui terrasse le mal. Vous savez, c'est l'archange Saint-Michel. Il est assimilé à la protection de la France et ça va durer très longtemps, jusqu'au 19e siècle et peut-être, on pourrait presque dire, jusqu'aujourd'hui. Alors entre-temps, le Mont évidemment sera devenu une prison d'État à partir du règne de Louis XIV, une prison particulièrement dure, il faut le dire. On a toujours comme symbole de l'arbitraire de la monarchie d'Ancien Régime la Bastille. En vérité, la prison de Saint-Michel, enfin du Mont Saint-Michel, était infiniment pire. Au XVIIIe siècle, je passe sur la période Maurice, donc des moines de Saint-Maur, cette abbaye et donc cette prison, disons-le, a beaucoup perdu de son prestige. Les derniers moines sont chassés par la Révolution en 1791. On ne parle plus d'ailleurs de Mont Saint-Michel, mais de Mont Michel qui sera... Ah oui, on enlève, c'est complètement fou, c'est la déroyalisation de cette période révolutionnaire et ça deviendra carrément sous la Terreur le Mont Libre. Qui n'en reste pas moins une prison d'État. On fait fabriquer aux bannières du Mont-Saint-Michel des chapeaux de paille notamment. Enfin, on va revenir bien sûr sur toute cette histoire et sur toute cette vie du Mont-Saint-Michel. Décadence terrible quand même au tout début du 19e siècle jusqu'à cette campagne d'opinion qui au début des années 1860, donc sous le Second Empire, va soulever une sorte de vent de sauvegarde en faveur du Mont-Saint-Michel. Victor Hugo lui-même en 62, depuis l'exil, écrit: le Mont Saint-Michel apparaît comme une chose sublime, une pyramide merveilleuse. C'est en 1863 que Napoléon III fait fermer la prison. Après la chute du Second Empire en 1974, le Mont sera classé monument historique et on y travaille déjà depuis longtemps. On le restaure, on le remet en état à cette époque. On va y revenir à ça aussi. En 1922, le culte est restauré dans l'abbatiale et puis pour le millénaire, en 1966, un millénaire qui s'accompagne de célébrations somptueuses, on réinsère un début de communauté bénédictine, très limitée, 9 personnes. Le retour de cette communauté s'est effectué en 1969. Nous allons voir ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, nous avons pour commencer cette émission abordé le Mont Saint-Michel au petit matin dans les toutes premières lueurs d'une aube du reste embrumée. C'est aux belles heures du soir peut-être qu'il faut aller voir ce mont lorsque la lumière parfaitement dorée, très fine, si spécifique à cette baie d'Avranches, lorsque la lumière vient caresser les pierres de cette architecture sublime. Je cite Émile Baumann: au mont et alentour, les heures du paysage sont toutes de belles heures. Le ciel a grandi les grèves et les grèves paraissent grandir le ciel.
Un extrait sur Europe 1 de la série télévisée britannique Cat Fell. Restez à l'écoute de votre radio. Franck Ferrand revient pour une balade aujourd'hui au Mont Saint-Michel.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités, Franck, aujourd'hui sur Europe 1, Patrice de Plainquette, qui est écrivain, journaliste et blogueur. Il a mené 10 ans de recherche sur l'histoire du Mont Saint-Michel. Également avec nous, Stéphane Compoint, qui est journaliste, grand reporter et photographe aérien du Mont Saint-Michel.
Bonjour à tous les deux, Patrice de Plainquette. Nous allons revenir avec vous sur l'ensemble de cette saga que j'ai vraiment brossée à la hâte, à la diable, aurait dit Sainte-Beuve. Nous allons revenir sur un certain nombre d'idées fausses que nous avons sur le Mont Saint-Michel. Et quant à vous, Stéphane Compoint, vous nous régalez de photographies extraordinaires dans ce numéro spécial de Pèlerin, qui sera disponible à partir du 5 juillet. Mais on peut déjà voir un certain nombre de ces photos dans le magazine Pèlerin, le magazine périodique. Vous êtes un peu, j'espère ne pas vous froisser en disant ça, vous êtes un peu le Nicolas Hulot de la photographie. Vous avez des appareils étranges pour aller faire vos photos aériennes.
Oui, vous ne me vexez pas du tout. Non, mais c'est vrai que on cherche toujours de nouveaux points de vue, de nouveaux angles. Hein, c'est le propre de la presse. J'utilise un ballon photo depuis 8 ans. C'est une méthode qui m'intéresse beaucoup par son côté silencieux, son côté non polluant. Là, on rejoint peut-être les
presque
intérêts
futuriste
de Nicolas Hulot,
ouais, voilà,
d'accord.
Ouais.
Mais aussi parce que ça me permet non seulement d'être à la juste hauteur, c'est Je fais de l'aérien, mais en fait, je fais de la mi-hauteur, mais aussi de m'approcher. Et c'est cette notion de proximité qui est très intéressante pour moi.
Alors, il y a une photo, il y a même plusieurs photos de votre matériel, mais donc le ballon que vous utilisez, c'est une sorte d'énorme poche qui a la forme d'un quadrilatère, quasi transparent, translucide. Il vous embarque le ballon ou il n'y a que l'appareil qui décolle avec lui?
Il embarque un appareil photo, il mesure environ 3 mètres sur 2, ça a forme d'un petit tic-tac, vous voyez, une gélule.
Ouais, c'est ça, oui.
Voilà.
Mais de beaucoup plus grande taille.
Ah bah oui, 3 mètres sur 2,
voilà. C'est ça, ouais. Et donc ça vous permet de faire ces espèces de photos extraordinaires qui ne sont ni des photos aériennes comme on peut les voir d'avion ou souvent d'hélicoptère, c'est-à-dire de très très haut, ni bien sûr des photos du ras du sol. On est à mi-hauteur et donc on a l'impression de tutoyer l'architecture.
Voilà, c'est ça qui est intéressant. En fait, on a souvent le sentiment d'être dominé par un monument quand on est au sol. C'est normal, surtout un monument d'une telle hauteur. En hélico ou en avion, c'est l'inverse. On domine et on aplatit exagérément.
Bien sûr, oui.
Cette notion de demi-hauteur, c'est là qu'elle m'intéresse beaucoup. On est à la même hauteur, on se regarde les yeux dans les yeux, dans quelque sorte.
Alors Patrice de Plainquette, vous avez consacré beaucoup de temps au Mont-Saint-Michel. C'est-à-dire que vous êtes allé vous y installer. Comment avez-vous travaillé pour faire cette recherche et pour être capable de nous donner de nous livrer la vérité sur cet extraordinaire monument?
Alors oui, si le livre est original, c'est qu'il représente 10 ans de travail et c'est la mise au jour de sources qui n'avaient pas été exploitées pour la plupart.
Où sont-elles, ces sources?
Mais chez les érudits locaux, chez des gens qui ont des brochures publiées en 1839 à 200 exemplaires. par le notaire du coin qui a fait imprimer ça par le copain imprimeur du bourg. Et ça n'est même pas la Bibliothèque nationale. Et c'est passionnant. C'est comme ça que j'ai, par exemple, pu faire revivre les histoires extraordinairement pittoresques, dignes d'Alexandre Dumas, qui se sont passées sous Louis-Philippe, pendant que tous les prisonniers politiques, ceux de l'extrême droite ultra-royaliste et ceux de l'extrême gauche ultra-républicaine...
Oui, il y avait les légitimistes d'un côté puis les républicains de l'autre.
Et voilà, étaient envoyés par Louis-Philippe, tous au Mont-Saint-Michel, en prison, voir si j'y suis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de se battre entre eux, ils se sont ligués contre le directeur de la prison, le malheureux monsieur Martin Deslandes, qui, après deux nuits où les républicains ont, la nuit du 14 juillet, chanté jusqu'à 3h du matin, le Ça ira, la Carmagnole, les voyages du Bonnet Rouge, on les entendait jusqu'à la côte. Le lendemain, c'est quoi? C'est la Saint-Henri. Et là, c'est les légitimistes qui, jusqu'à 4h du matin, chantent le vive Henri IV, la Parisienne de 1815. Et le malheureux Martin Deslandes, après deux nuits blanches, écrit dans son journal « Les légitimistes ont été les républicains ont été affreux, mais les légitimistes sont encore pires. » Après, il fait une dépression nerveuse et on le remplace. Donc, voilà, c'est une foule de choses. Et également, ce qui est arrivé sous les guerres de religion, c'est ahurissant. C'est vraiment de l'Alexandre Dumas, sauf que c'est vraiment arrivé. C'est des histoires extravagantes.
Si vous voulez, plutôt que de partir de Louis-Philippe, d'aller aux guerres de religion, etc., moi, je vous propose de reprendre un peu l'histoire du Mont. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est une histoire extrêmement ancienne. Quand on célèbre le millénaire en 1966, c'est le millénaire de la fondation de l'abbaye, mais le Mont est déjà un lieu mythique à cette époque depuis longtemps, depuis l'époque carolingienne et même depuis la toute fin de l'époque mérovingienne.
Les premiers ermites s'installent sur le Mont vers l'an 550. On est encore dans l'Antiquité tardive, hein, c'est même pas encore le Haut Moyen-Âge. Qui sait? C'est probablement des moines celtes. Le monachisme celte a eu une importance énorme en Europe avant d'être effacé par la tradition de Saint-Benoît, les bénédictins, plus organisés. Les celtes avaient un côté beaucoup plus fou. C'était de l'héroïsme monastique. C'était des gens qui chantaient nuit et jour tous les psaumes de la Bible, c'est-à-dire 17 500 fois par an. Donc, les premiers ermites s'installent vers 550. Ils mènent là une vie qui nous est racontée par la chronique de manière absolument légendaire. Donc, on est sûr de rien. D'ailleurs, on n'a pas retrouvé de traces archéologiques. Ce sont les chroniques qui nous le disent. Il faut attendre, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Saint Aubert, qui lui est un évêque mérovingien. Aubert, c'est un nom typiquement mérovingien.
Ah oui, on est dedans, oui.
Et c'est un évêque politique, parce que les mérovingiens placent leur pion. Et l'évêque, cette période difficile et chaotique, c'est lui qui est le patron de la ville, en fait.
Oui, et puis on est à l'articulation entre la future Normandie et la Bretagne. Hein, voilà. Donc
Aubert a son illumination, son songe nocturne. Mais comme avant lui, l'évêque d'Italie du Sud qui avait fondé le monastère du Mont Gargan. Et tout ça, ça vient en fait de la Bible. C'est le songe de prophète Élie dans le désert, qui s'enfuit et que l'ange vient secouer en disant « Va à ton rendez-vous avec Dieu sur la montagne ». Donc on retrouve toujours la montagne. Saint-Michel, c'est c'est les hauts lieux escarpés, dangereux, les montagnes. Aubert fonde le sanctuaire et les pèlerins arrivent. Donc les pèlerins sont là avant les moines.
C'est ça, c'est ça.
Parce que le sanctuaire, à l'époque mérovingienne et carolingienne, ce sont des curés ordinaires, qu'on les appelle des chanoines. Mais à l'époque, le chanoine, c'est pas un vieux monsieur à gros ventre, c'est un type de 25 ans, musclé, et qui fait tourner le sanctuaire. Et les pèlerins de l'époque sont pas des enfants de cœur non plus. Donc c'est assez sportif. Les moines, ils arrivent quand ? Ils arrivent avec les ducs de Normandie, qui s'emparent du Cotentin et de l'Avranchin, qui le prennent aux Bretons, parce que tout ça était
qui breton. Qui le gagnent sur la Bretagne.
Sous Nominoé, c'était les Bretons, absolument. Donc, les ducs de Normandie, sachant qu'il y a déjà le Mont-Saint-Michel, un succès fou que le monde entier de l'époque vient en pèlerinage, le veulent pour eux. Et ils y mettent des moines normands, donc venus de Saint-Vendry, etc. Et là commence la grande saga des moines bénédictins au Mont-Saint-Michel, mais qui sera une saga extrêmement musclée aussi.
À partir du moment où l'on considère que c'est le Couesnon, hein, ce tout petit fleuve qui fait la séparation entre Bretagne et Normandie, et que, objectivement, le Couesnon passe à l'ouest, eh bien, le Mont-Saint-Michel sera normand. Le Couesnon, dit-on dans sa folie, a mis le mont en Normandie.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Avec une émission consacrée cet après-midi sur Europe 1 au Mont-Saint-Michel qui fait réagir de nombreux auditeurs, Franck.
Et oui, et d'ailleurs, encourageons nos auditeurs à réagir, même pour nous parler d'aspects plus contemporains comme les omelettes montoises de la mère Poulard ou les moutons
omelettes.
De Pré-Salé, bien entendu. Tout ça nous met l'eau à la bouche, nous qui n'avons pas déjeuné, Julien.
C'est bien vrai.
En l'occurrence, Frédéric me demande de préciser que nous parlons bien aujourd'hui du Mont-Saint-Michel de Normandie, car, nous dit-il, il existe aussi un Mont-Saint-Michel Michel de Cornouailles, d'ailleurs filiale ou succursale du Mont Normand, mais également passionnant. Moi, je ne le connais pas, pour tout vous dire. Patrice de Plainquette, vous connaissez, vous, ce Mont Saint-Michel de Cornouailles ?
Oui, je l'ai visité. Bon, ce n'est pas très passionnant, c'est un petit peu kitsch.
Il ne va pas être content, Frédéric.
Non, mais l'endroit est très, très estimable et honorable. Et en effet, ça a été une dépendance du Mont de Normandie. Mais bon, quand vous visitez aujourd'hui, vous avez un peu l'impression d'être dans du Moyen-Âgeux victorien, quoi. C'est très charmant, mais c'est un peu le Moyen-Âge tel que les Anglais érudits et amoureux du passé le réimaginaient vers 1880. C'est intéressant pour ça.
Cela dit, le Mont-Saint-Michel, et vous le dites bien, que nous visitons aujourd'hui, est un Mont-Saint-Michel revu et corrigé par le 19e siècle, par Viollet-le-Duc et ses épigones, en l'occurrence.
Oui, mais alors ils ont fait un grand boulot. Hein, parce que vous parliez des omelettes de la mère Poulard. Mais qui était la mère Poulard ? Elle s'appelait Annette Boutiot. Elle était berrichonne. Elle n'était pas du tout du Mont. Elle avait épousé le fils du boulanger du Mont, qui lui s'appelait Victor Poulard. Mais qui était Annette Boutiot ? C'était la gouvernante de Corroyer, le premier architecte en chef.
Envoyé par Viollet-le-Duc,
qui était un génie de la reconstitution architecturale, parce que le Mont était dans un très sale état, il faut bien se le dire. C'était indispensable de le réhabiliter et même de le réinventer un peu en certains endroits, parce que après deux siècles ou trois siècles de ruines budgétaires, d'utilisation carcérale, etc., le moins qu'on peut dire, c'est qu'il était très abîmé. Après Corroyer, ça c'est 1876, vous avez Petit Grand en 1889, vous avez Paul Gou, le grand Paul Gou en 1898, qui a laissé d'ailleurs des dessins admirables. Et à l'époque actuelle récente, vous avez Yves-Marie Froidevaux, autre très grand architecte et archéologue, qui a été là de 58 à 83, et c'est lui qui a mis au jour ce qu'on appelle Notre-Dame sous terre, qui a l'air d'être une crypte antique.
Alors qu'en fait, c'était la première...
C'était une église de plein vent.
C'est ça, de plein vent, oui.
Elle était perchée au sommet, c'était la deuxième. Après le petit oratoire en pierre sèche construit par Saint-Aubert, sous les Mérovingiens, vous avez la première église construite au moment des premiers ducs de Normandie, mais qui est très fruste, et qui sera rapidement remplacée par la grande abbatiale, celle que l'on peut visiter aujourd'hui.
Admirer la puissance des contreforts, la légèreté de la merveille, la dentelle ajourée du cloître, la profusion des bâtiments abbatiaux enchevêtrés les uns au-dessus des autres dans une prouesse verticale inouïe. Pour vous permettre de frôler cette démesure, écrit Catherine Lalanne dans la préface de ce numéro spécial du magazine Pèlerin, pour vous permettre de déchiffrer le dédale architectural du rocher de Dieu, notre photographe, donc Stéphane Campoint, s'est approché au plus près des chefs-d'œuvre, bravant les vents de la baie qui faisait danser son ballon. Ça devait être parfois un peu sportif, ce que vous avez fait, non ?
Oui, c'est sûr. Les conditions de vent au Mont-Saint-Michel sont connues très changeantes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu sportif, je reprends votre expression. Mais ce qui est intéressant quand on peut s'élever au-dessus du mont, c'est justement cette difficulté à distinguer le rocher de l'architecture. Il y a un moment donné, on ne sait plus où ça commence.
Tout fusionne, en fait. Oui.
Voilà, et ça, c'est vraiment assez extraordinaire. Et je trouve que le fait de s'élever et de s'approcher, on est encore plus frappé par cet effet qui est vraiment... vraiment extraordinaire.
On a tendance à parler d'élévation, de prouesse, etc. quand on parle des architectures, enfin d'une façon plus générale du mont, et on oublie que ce qu'il y a de plus frappant peut-être encore, c'est cette harmonie. Et comme vous dites, cette espèce de fusion entre nature et culture, entre un site hors du commun et ce que les hommes ont réussi à en faire.
Voilà. Alors, j'essaye aussi de montrer les différentes strates, c'est pas forcément évident, mais toute cette accumulation d'époques qui est vraiment très frappant au Mont-Saint-Michel, j'allais dire plus qu'ailleurs. Et le fait de pouvoir monter à la juste hauteur, la hauteur du cloître, à la hauteur de l'abbaye, etc., on sent mieux que lorsqu'on parcourt le dédale de la merveille et qu'on est quasiment perdu, on ne sait même plus où est le nord, où est le sud. Enfin, tous les visiteurs ont connu cette sensation de labyrinthe comme ça. Bon, le fait d'être à l'extérieur au plus près, j'essaye de montrer cette alternance, cette succession de couches historiques.
Et vous la rendez lisible. Ça, c'est tout à fait magnifique et ça fait partie du plaisir qu'on a à feuilleter ce numéro spécial. En attendant, je me rends compte que nous avons un peu laissé tomber notre histoire. On était au haut Moyen-Âge. On est encore loin de la prison d'État dont j'aimerais qu'on parle. Entre les deux, il y a la guerre de 100 ans, les guerres de religion. Bref, tout un programme historique. Je laisse à Patrice de Plainquette le temps de reprendre son souffle et nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes toujours en compagnie de Patrice de Plainquette et de Stéphane Compoint. Nous nous intéressons aujourd'hui au Mont-Saint-Michel.
3 millions de visiteurs par an reçus par 14 moines et moniales de la Fraternité de Jérusalem. Ils sont très peu, mais ils sont là. Ils tiennent les lieux. On va y revenir tout à l'heure, si vous le voulez bien. Avant cela, Patrice de Plainquette, j'aimerais qu'on fasse un point sur deux ou trois moments clés de l'histoire du Mont. On parle toujours, évidemment, de la guerre de 100 ans. Alors, qu'en est-il de ce si long siège? Vous dites qu'en vérité, on n'en trouve pas autant de traces que ça dans les archives.
Mais voyez, on trouve, si. Il est extrêmement documenté. Il a effectivement duré 30 ans, mais pas comme l'a raconté l'historiographie un peu image d'Épinal des années 1880. Parce que la grande saga des 119 chevaliers héroïques qui ont résisté pendant 30 ans s'est inventée en 1880 par les gens qui sont mal remis de la défaite de 70 et qui sont en train de réinventer une saga héroïque pour se redonner du tonus. Alors les catholiques vont par exemple se recourir au mythe des chevaliers de Saint-Michel, etc. Les laïcs, ils auront 10 ans après, le Cyrano de Bergerac, de Rostand, c'est la France et son panache. Ça fait partie de la même du réarmement moral culturel des débuts de la troisième.
On a voulu réécrire, on a écrit le grand roman national.
Bien sûr. Mais ce qui arrive, et ce qui est réellement arrivé sous la guerre de 100 ans, c'est bien plus passionnant. La réalité est bien plus marrante et, je dirais, bien plus ambiguë. Les 119 chevaliers, ils n'ont jamais été là ensemble. Effectivement, le siège a duré 30 ans, mais c'était des petites équipes à l'époque. On défendait une forteresse avec 20 personnes. C'est une chose... Et les armées étaient minuscules. Les 20 000 Anglais de l'assaut de 1434, ils étaient 2 000 en réalité. Mais ils avaient des grosses bombardes qu'on peut encore voir à l'heure actuelle, à l'entrée du Mont-Saint-Michel. Mais ce qui est passionnant à voir, c'est que les 119 chevaliers, ils avaient tous un frère ou un cousin dans l'armée anglaise. Parce que c'était les stratégies de la noblesse normande qui, ne sachant pas qui allait gagner à l'arrivée, eh bien, le lignage, c'est quand même...
On ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier.
Le lignage, c'est plus important que la politique. Et ils mettaient un fils dans un camp et l'autre fils dans l'autre. Alors, ce qui est extrêmement pittoresque, c'est que qu'est-ce qui se passe en 1420? Il y a eu Azincourt. Henri V devient roi d'Angleterre et de France. Puis il meurt et c'est le duc de Bedford qui prend la régence puisque le petit Henri VI, roi d'Angleterre et de France, n'a que quelques mois. À ce moment-là, l'abbaye du Mont-Saint-Michel passe aux Anglais. Or, qui est l'abbé du Mont-Saint-Michel? C'est Robert Jolivet. C'est l'homme que Charles VI avait chargé de fortifier le mont, parce que les remparts n'existaient pas au pied du mont. Il l'a fortifié. Il l'a si bien fortifié que quand il va revenir avec l'armée anglaise, chargée par le duc de Bedford, de reprendre le mont qu'il venait de quitter, il n'arrivera jamais à le reprendre. Et alors là, lui, vraiment, pendant 30 ans, il va ne penser qu'à ça. Il va être obsédé. On va voir ce moine courir partout pour lever des soldats, des bateaux, bon. Et à tous les assauts, ça rate. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la marée. Alors c'est déjà difficile de manœuvrer des bombardes.
Le Mont-Saint-Michel, c'est d'abord la marée.
Mais bien sûr, les bombardes de l'époque, d'abord, elles ne sont pas
efficaces. Au péril de la mer.
Mais quand la marée arrive, vous bombardez, ben, il faut les laisser sur les grèves. Alors vous leur mettez des housses en cuir, vous les bouchez pour qu'il n'y ait pas trop de varech dedans quand vous revenez. Mais au moment, il ne reste pas assez de temps. Et c'est pour ça que les Anglais n'arriveront jamais à reprendre le Mont-Saint-Michel.
Un peu plus tard, au moment des guerres de religion, le mont est un véritable enjeu. C'est fondamental, ce Mont-Saint-Michel. Il est devenu un symbole national, il ne faut pas l'oublier.
Alors ça n'arrête pas. D'abord, les Huguenots veulent s'en emparer. Pourquoi? Mais parce que la Ligue catholique, les ultra-catholiques, a commencé par s'en emparer, pour en faire un bastion. Alors du coup, les Huguenots arrivent. C'est qui les Huguenots? C'est Montgomery, le célèbre Montgomery qui est du coin, qui est de Basse-Normandie. Et c'est lui qui avait tué Henri II en tournoi, sans le faire exprès. Et qui donc avait passé protestant pour échapper à la vengeance de Catherine de Médicis. Il lui fallait des copains. Donc, assaut en 1577, en 1589, en 1591, ça n'arrête pas. Et certes, l'assaut de 1589, alors là c'est vraiment digne de Dumas, quand Montgomery embarque son commando dans le treuil qui servait à faire monter en haut du mont le ravitaillement des moines, et on en voit les Huguenots armés montent l'un après l'autre. Seulement, le soldat qui avait trahi et organisé tout ça, il a retrahi, il est repassé du côté ligueur. Et au fur et à mesure que les Huguenots débarquent, ils se font proprement trucider par les défenseurs du mont, et on va en tuer comme ça 85. Et à Montgomery se rend compte finalement que ça ne se passe pas très bien, parce que personne ne revient, et en tout cas, on lui dit pas de monter. Et alors qu'il est, ces 85 malheureux guerriers huguenots, ils sont toujours inhumés au bas de la falaise nord, au bas du petit bois qui fait face au nord. Et les touristes qui longent ça en sortant de visiter la merveille ne se doutent pas qu'il y a une tombe de masse par-dessous.
Un charnier, là.
Eh bien, exactement. Alors ça, c'est plus fort que du Dumas. C'est du Dumas, parce que c'est vraiment arrivé.
Il faut que nous disions un mot de tous ces pèlerins qui, à travers les âges, sont venus au Mont-Saint-Michel, de tous ces mi-clos. Il y a une tradition, il y a des habitudes, des coutumes, des légendes aussi. C'est Dorine, notamment, qui nous parle. On reçoit beaucoup de messages sur le Mont-Saint-Michel, je suis ravi, qui nous parle de certains miracles qui ont eu lieu également au Mont-Saint-Michel.
Alors, il y a tout un légendaire des miracles du Mont-Saint-Michel, et c'est très intéressant parce que les miracles du Mont-Saint-Michel, les miracles bénéfiques, sont en faveur des petites gens et des pèlerins, des gens pauvres, des gens simples. Et les miracles de punition sont toujours...
Ah, parce qu'il y a des miracles de punition.
Exactement, c'est toujours...
C'est-à-dire que vous appelez
c'est moi ça. Ce sont des châtiments, mais qui
châtient? Des gens qui se noient ou des...
Non,
des,
pas
des,
du tout.
Des coups de foudre.
Pas du tout. Ce sont des curés qui sont châtiés. Ou des moines qui n'ont pas été respectueux, qui n'ont pas servi la règle, ou qui ont essayé de faire les malins avec les reliques. Pour satisfaire leur curiosité ou pour en tirer profit. Et ceux-là, ils ont droit à être giflés cruellement par l'archange quand ils traversent à 2h du matin le sanctuaire, parce qu'en principe...
Ils rigolent pas, l'archange.
Personne ne doit entrer dans le sanctuaire. Ah, c'est pas un rigolo, l'archange Saint-Michel. C'est pas un guignolé. Hein.
Je sens qu'on va encore avoir des appels.
Il inquiète. Alors, en revanche, les petites gens, les pèlerins, alors c'est la célèbre histoire de l'accouchée des grèves, une femme enceinte qui faisait partie d'un groupe de pèlerins. Ils repartent après avoir fait leur dévotion au mont, la marée monte, les pèlerins affolés partent en courant, reste la malheureuse femme enceinte, et elle est saisie des premières douleurs, et la mer la contourne. Et la mer s'élève des deux côtés d'elle comme une sorte de rempart d'eau, et lorsque elle la renverse avec la marée descendante, les autres pèlerins un peu honteux viennent voir ce qui lui est arrivé. Il la découvre en train de laver son enfant et de lui donner le sein. Et ça a tellement frappé tout le monde qu'on a tout de suite construit un énorme calvaire, une croix avec des poutres énormes en assises souterraines ancrées dans le sable. Et cette croix a tenu pendant des siècles. Et on l'a vu pour la dernière fois à la fin du 19e. Donc c'est une histoire qui a énormément frappé les...
Vous aurez bien compris que Patrice de Plainquette a énormément à vous raconter sur ce Mont-Saint-Michel. Et le meilleur conseil que je puisse donner à nos auditeurs, c'est bien sûr de se plonger dans ses romans. Vous l'avez mis au pluriel, c'est une bonne idée, du Mont-Saint-Michel. Alors, je voulais lire un extrait que vous consacrez, enfin une page que vous consacrez à Lavarande, grand historien de Normandie dont on ne parle pas assez à mon avis et dont j'ai pas moi suffisamment l'occasion de parler. Je ne vais pas avoir le temps de le faire, mais ce qu'il faut dire, c'est que votre ouvrage est par ailleurs émaillé de références à tous ces grands auteurs qui ont littéralement tissé la légende du Mont-Saint-Michel, parce que ce lieu est mondialement, est universellement connu et aimé jusqu'aux confins du monde. On connaît le Mont-Saint-Michel, Stéphane Compoisson, oui, c'est tout à fait extraordinaire.
On est frappé par l'arrivée des touristes dans l'abbaye lors des cérémonies des moines et des moniales de la fraternité monastique de Jérusalem, par la qualité du silence qui s'instaure quasiment immédiatement, alors qu'on sait par nature que les touristes sont plutôt des groupes turbulents.
Mais là, ils les respectent, ces moines et ces moniales. Des souvenirs du Mont, une évocation des Miquelots, etc. C'est ce que vous pouvez voir en exposition temporaire en ce moment au Scriptorial d'Avranches, qui est ce magnifique musée présentant en tour à tour, parce qu'on ne peut pas les montrer toujours au public, ces extraordinaires manuscrits enluminés qu'on appelle les manuscrits du Mont-Saint-Michel, parce qu'ils ont été réalisés par les moines du Mont-Saint-Michel à travers les âges. Certains sont extrêmement anciens. Et puis, avant de vous dire au revoir à tous les deux, de rappeler les titres de vos ouvrages, les romans du Mont-Saint-Michel de Patrice de Plainquette, c'est édité bien sûr aux éditions du Rocher. Et puis, ce numéro spécial de Pèlerin sera dans les kiosques à partir du 5 juillet. Je voulais aussi, c'est un peu hors sujet, mais c'est le jour ou jamais, souhaiter un bon anniversaire à Jean-Jacques Rousseau, qui a 300 ans aujourd'hui. Nous avons fêté cet anniversaire un peu en avance. Nous avions pris de l'avance.